Merci beaucoup Pierre Veil, et tout de suite donc Estivalitude avec aujourd'hui Pio Marmaille et Gérard Mordillat. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors il y a eu Jerk, Groovy, Branché, Chebran, Fun, Saras, Ta mère, les temps changent et les mots évoluent. Le mot qui fait fureur cet été, bien sûr, c'est Estivalitude. Estivalitude, donc, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci,
c'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Pio Marmaille à 35 ans, vous en avez bien 35.
Ça y est, c'est fait, je suis dedans là.
Bon, c'est bon. Donc Pio Marmaille à 35 ans, l'acteur que vous êtes a déjà tourné dans 24 films. Le tout dernier, Je promets d'être sage, est signé Ronan Lepage et sort aujourd'hui même. Bonjour Pio Marmaille.
Bonjour.
Gérard Mordillat, omnicréateur, vous êtes l'auteur de 25 films, mais vous êtes aussi un écrivain populaire et engagé, ce dont témoigne votre dernier roman, Ces femmes-là. Bonjour Gérard Mordillat.
Bonjour.
Alors, lutte-vous colligé, oui, parce que j'essaie d'être un peu original au niveau de la formulation. Ce matin, le monde n'est pas un théâtre, mais un film. Magnéto-Juliette.
Estivalitude.
Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord ?
Ça veut rien dire.
Christophe Bourseiller, sur France Inter.
Pio Marmaille, vous connaissiez Gérard Mordillat ?
Non.
Pas du tout.
Pas
vous n'avez
tout.
Jamais entendu parler de Gérard Mordillat.
Je vais vous dire non. C'est
si
vrai.
Je vous dis vive la sociale, ça vous dit rien ?
Pas du tout.
Rien du tout. Bah, c'est formidable.
Et c'est pas du tout, ce n'est pas un choix de ma part. Je n'ai pas comme ça.
Ça vous a échappé,
côté.
Quoi.
Ça m'a échappé.
Voilà,
oui.
Ça vous a échappé. Vous
exactement,
savez qui est le président de la République aujourd'hui ou pas ?
Bien sûr.
Et c'est qui ?
C'est une personne qui est à la tête de l'État.
C'est ça. Eh ben, vous êtes effectivement, je vois que vous avez une grande culture générale. Gérard Mordillat, vous n'avez jamais fait tourner Pio Marmaille ?
Non, je ne l'ai jamais fait tourner.
C'est pour ça qu'il ne vous connaît pas.
Je l'ai vu jouer dans plusieurs films et j'ai même pensé le solliciter à un moment pour une version musicale des Vivants et les Morts. Mais je ne sais pas si vous chantez juste.
Alors là, on démarre très très fort.
Vous
c'est vraiment un endroit où je suis particulièrement faible et mauvais, voire même mauvais. C'est bien
bon
dans le
chanteur.
Chant. Et même plus, ça me terrifie de chanter devant les gens.
Bon, en tout cas, vous avez un point commun tous les deux, c'est le cinéma, il faut quand même le dire, mais que vous abordez sous des angles très très différents. On pourrait dire que ce matin, l'un s'engage, l'autre se dégage, mais devinez lequel, on va en parler bien évidemment. Pio Marmaille, c'est un film drôle et c'est un drôle de film. Je promets d'être sage. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. Tout simplement.
Je vous présente Franck qui va travailler avec nous.
Ça me fait tellement bizarre de t'imaginer sur ta chaise avec ton petit uniforme.
Tu n'imagines même pas comme ça bouge dans un musée, comme ça fourmille, c'est dingue.
Je suis tombée sur un agent de surveillance parfaitement incompétent.
En quoi je dois lui rendre des comptes à elle ?
Cela pète comme si elle était conservatrice.
Mais c'est qu'une agent de surveillance.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vouliez vous tasser sur une chaise comme ça ?
Chaque musée se doit de faire l'inventaire de l'ensemble de ses collections.
Oh, mais il t'a foutu en équipe avec elle.
Qu'est-ce que tu fabriques avec ces post-it ?
Quand je trouve pas un objet, je note la référence pour Monsieur Laurent.
Il faut tout me rendre, c'était une mauvaise idée.
Ils sont hyper organisés, ils enregistrent tout, ils se préviennent dès qu'il manque un truc.
Il est hors de question que je rende quoi que ce soit.
Il n'y a pas moyen de récupérer ces trucs.
J'y arrive pas.
Le type, là.
Hey, Stéphane !
Vous vous connaissez comment avec Stéphane ?
Bah Stéphane est un client à nous.
Il achète, hein ?
C'est à deux qu'on a du talent. On se complète.
Voilà, donc la bande-annonce du film « Je promets d'être sage ». C'est vrai qu'on n'est pas loin d'un certain surréalisme, hein, dont la bande-annonce ne témoigne pas nécessairement. Alors, Pio Marmaille, dans ce film, vous incarnez un metteur en scène d'avant-garde, dégoûté par l'accueil du public. Et je dois dire qu'il y a une première scène extraordinaire qui, pour moi, restera dans les annales. Celle, en quelque sorte, d'un metteur en scène tellement impliqué qu'il descend sur scène pour... presque aller frapper les spectateurs.
Bah déjà, il frappe ses propres acteurs, c'est quand même assez rare.
Ouais.
J'entends qu'on pisse sur les à certains moments,
oui.
Mais aller jusqu'au contact physique, c'est une chose. Et puis, je crois que cette scène, en tout cas, c'est vraiment, en tout cas, la première chose qui m'a saisi en fait quand j'ai lu ce scénario, parce que déjà c'est la scène d'ouverture, et parce qu'il y avait une sorte de possibilité comme ça d'entrée, d'endroit de création et de proposition assez forte que j'avais quand même assez rarement croisé dans des films, ou des premiers films, ou des films avec des metteurs en scène plus confirmés. Mais en tout cas, ça a vraiment été un élément déclencheur pour moi. Je me suis dit, punaise, là, dans cet endroit-là, d'excès, d'hystérie.
Ah, bah, ça démarre.
De sudation.
On dirait un peu du Zulawski, vous voyez, d'outrance, comme exact. Ça, incroyable. Gérard Mordilla, vous avez déjà frappé des comédiens, ou vous êtes déjà déchaîné contre un acteur?
Ah non, pas du tout. Non,
c'est
non.
Pas votre nature, ça.
C'est pas
vous
du
déchaînez
tout ça.
Contre le capital, vous plutôt.
Oui, contre le capital tant qu'il faut, mais contre les acteurs et les actrices jamais, parce que tout ce qu'on fait sur un film est fait pour mettre au mieux les actrices et les acteurs. S'il y a une chose, une conviction fermement ancrée en moi, c'est bien celle-là. Il n'y a pas de film si on n'a pas les acteurs.
Alors, ce qui est vrai dans le film de Pio Marmaille, Gérard, je vous le dis, c'est que donc c'est un metteur en scène. On ne sait pas s'il est totalement doué pour ça, puisque le spectacle a l'air moyen hein, quand on le regarde. Pardon, Pio, mais enfin, bon, on se demande un peu. Et puis surtout, vous plaquez tout pour vivre. Alors, c'est là où ça devient étrange et assez surréaliste, pour vivre la vie méditative d'un gardien de musée. Mais c'est pas ce que vous imaginez, en fait, c'est ça.
Oui, je pense que au-delà même de cet aspect méditatif, je pense que c'est surtout quelqu'un qui veut rentrer dans une sorte de norme, en fait, qui est resté un peu un peu marginal dans une existence un peu pas forcément réussie, enfin en tout cas telle que lui il imaginait réussie, et qui se dit, je pense qu'à l'intérieur d'un musée, je vais trouver un endroit de salut. Est-ce que c'est mon point de vue? Je suis pas sûr, parce que c'est vrai que voilà. Après, on rentre dans une autre rythmique, hein. C'est-à-dire que le gardien de musée, c'est pas la même.
Mais parce que vous faites la connaissance, et là où ça se joue, d'une étrange gardienne jouée par Léa Drucker, qui est formidable comme vous. Et alors, en fait, cette gardienne, c'est ce qu'on appelle dans le monde du travail. Vous connaissez sûrement ça, Gérard, une collègue toxique.
Voilà.
Elle est toxique. Alors, comment on fait pour être une collègue toxique, Pio?
Je pense qu'il faut déjà être. Je pense qu'il faut déjà aimer un petit peu. Titiller la personne avec qui on travaille dans le sens le plus dur, et je pense qu'il faut aussi aimer, enfin je pense qu'il faut mettre dans un endroit de malaise les autres.
Voilà, elle plonge tout le monde dans le malaise, y compris vous. Enfin, c'est épouvantable d'être avec elle en réunion ou d'être à ses côtés. Et en plus, elle a un petit problème, et là où ça devient très intéressant, c'est que elle vole dans le musée. Elle est voleuse. Elle vole les objets. Et l'intrigue, là l'intrigue est intéressante parce qu'elle rappelle plusieurs faits divers célèbres. Il y en a eu beaucoup des vols comme ça dans les musées, dont celui-ci, c'est assez drôle. C'était en Russie au mois de janvier. Écoutez.
La scène se passe dans un grand musée de Moscou, sous l'œil des caméras de surveillance. Un visiteur s'approche d'un tableau, mais ce n'est pas seulement pour le voir de plus près. Il le décroche et l'emporte tranquillement. Les autres visiteurs n'en reviennent pas. Le revoici quelques instants après. Il sort du musée, les mains dans les poches, il n'a plus de cadre à la main et pour cause, il a découpé la toile, une œuvre d'un maître russe du début du XXe siècle, évaluée à $1 million. La police va la retrouver quelques heures plus tard en banlieue de Moscou, au domicile du suspect. Un homme de 31 ans qui semble tomber des nues quand la police lui demande où il était plus tôt dans la journée.
Je ne me souviens plus. Je suis un honnête citoyen russe.
C'est un peu vous, ça, Pio Marmaille, dans le film. C'est-à-dire, vous vous accoquinez avec Léa Drucker. Hein, il faut bien raconter les choses. Et là, vous devenez un couple assez extraordinaire. Un couple un peu Bonnie and Clyde des musées, hein, si on peut dire les choses comme ça. Et vous mentez avec un aplomb incroyable.
Oui, parce que je pense que... Attention, alors je ne rentre pas dans le débat de la morale. Faut-il voler ou pas? Moi, je suis pour le vol. D'ailleurs, je vous le dis à toutes et à tous, n'hésitez pas, voler le plus de choses. Tout nous appartient à partir du moment où on estime que c'est
un... Marmaille, hein, ce sont
et c'est
ces
un conseil, c'est un
Marmaille
conseil. Étape numéro 2, ce qui est intéressant, en tout cas dans le rapport qu'il y a entre Léa et moi, c'est que ce mec, Franck, retrouve en fait cette position de metteur en scène avec le personnage de Léa Drucker. C'est-à-dire que Sybille, à travers elle, il retrouve ce plaisir de diriger quelqu'un, effectivement, il y a une part de mensonge, mais il retrouve sa position comme ça, le petit chef aussi, de mettre en scène, quoi, ce qui est assez truculent, quoi, je trouve.
Gérard Mordilla, Pio Marmaille, en bon anarchiste qu'il est, appelle au vol, vous êtes d'accord?
Ben, ça dépend quoi. Moi, je suis pour le bien commun. Dans les musées, je pense que les choses appartiennent évidemment à tous les citoyens. À part ça, quand les anarchistes étaient allés voler des choses chez Fauchon pour les distribuer ensuite aux mal nourris, je trouvais ça et j'applaudissais des deux mains. Je suis absolument pour cette reprise-là.
Vous êtes pour ce genre de redistribution?
Absolument.
Et ça vous arrive, parce que le film de Pio Marmaille, dans lequel joue Pio Marmaille, se passe dans le monde de l'art, dans le monde du patrimoine. C'est une thématique qui vous intéresserait pour un film?
Peut-être, enfin je m'intéresse beaucoup à la peinture et j'ai eu la chance quand Nicolas Philibert tournait la ville Louvre, il tournait de nuit dans le Louvre. Et donc moi je venais sur le tournage et je pouvais visiter le Louvre tout seul, ce qui était extraordinaire. Mais sans ça je m'intéresse beaucoup à la peinture contemporaine. J'ai vu récemment l'exposition magnifique d'Ernest Pignon-Ernest à Avignon. Je suis très lié aussi avec des peintres comme Patrice Giorda ou comme Vladimir Velikovitch. Donc je crois que oui, ça m'intéresse beaucoup. Peut-être qu'un jour, je ferai quelque chose. Il y a un grand film sur la peinture, qui est le Edward Munch de Peter Watkins, qui est exceptionnel. Vraiment, il a trouvé exactement comment parler d'un peintre, ce qui n'est pas évident.
Pio Marmin, j'ai une question à vous poser sur le personnage de votre comparse Léa Drucker. Il semblerait qu'elle souffre d'une maladie, mais j'avoue que je n'ai pas compris ce que c'était. Est-ce que c'est une forme d'Alzheimer, parce qu'elle passe son temps à apprendre des mots ou à réapprendre des mots?
Je pense que c'est une volonté aussi du metteur en scène de pas dévoiler l'intégralité du parcours de ce personnage. Après, effectivement, il semblerait qu'elle ait eu une sorte de micro-AVC. Après, c'est pas expliqué non plus. Et c'est ça aussi que j'aime aussi dans l'écriture de Ronan Lepage, c'est qu'il n'y a pas forcément... Tout n'est pas expliqué. Il y a une part comme ça de...
Un peu loufoque.
Secret. Ouais, un peu d'étrangeté, ouais, un petit peu de secret qui est agréable dans le cinéma contemporain. On essaye toujours de nous dire, voilà pourquoi est-ce qu'elle lit quelque chose, enfin, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de retrouver le langage, c'est parce qu'elle a eu un malaise ou quoi. Moi, je trouve ça intéressant qu'on n'explique pas tout.
Ah, ici, je pourrais ajouter un tampon. J'aime Isia, la talentueuse fille de Jacques Higelin. C'était trop vite.
France Inter, Estivalitude, Christophe Bourseiller.
Gérard, donc avec votre livre, votre dernier roman, Ces femmes-là, vous renouez, je crois, avec la tradition très ancienne, historique, du roman populaire engagé. C'est ça que vous êtes en fait, vous êtes un romancier populaire, mais ultra engagé quand même.
Pas engagé, je crois que chacun d'entre nous l'est à sa manière. Moi, je suis engagé en écrivant, en faisant des films. Voilà, et c'est ça l'engagement, parce que au fond, qu'est-ce que l'enjeu pour un cinéaste ou pour un romancier, eh bien, c'est de dire le réel. Et dans cette société où on nous fournit quotidiennement des milliers de miroirs pour empêcher de le revoir, eh bien, ce réel, soudain, nous apparaît dans le texte, nous apparaît sur l'écran.
Alors, vous allez voir Pio Marmaille, le livre de Gérard Mordillat, c'est un roman. Alors, j'ose pas dire de science-fiction parce que ça se passe dans un futur vraiment très, très proche puisque ça se passe en 2024 et que Paris s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques. Mais déjà, à cette époque-là, selon vous, la démocratie se transforme subrepticement en dictature.
Oui, enfin, alors on peut le dire poliment en disant qu'il y a une dérive autoritaire du gouvernement et moins poliment en disant qu'un néo-fascisme s'est installé. Parce que, comme toujours, quand il y a les Jeux Olympiques dans une ville, dans un pays, c'est l'occasion pour les gouvernements de prendre des mesures. Et là, dans ces femmes-là, il y a eu des mesures sociales. Par exemple, on contraint à travailler bénévolement les chômeurs et les allocataires des aides sociales pour construire les stades, etc. Et puis, il y a une mesure autre qui est de regrouper tous les musulmans dans des quartiers, soi-disant, pour les protéger. Donc, ça va susciter, évidemment, l'indignation d'une partie de la population qui va organiser une très grande
manifestation. Oui, parce qu'on commence à les ficher en leur injectant des puces électroniques.
Oui, bien sûr, mais... non, mais attendez, vous rigolez, mais c'est une chose
Ah non, mais je rigole, enfin, je rigole peur. C'est la peur qui me fait rire.
Ça s'est pratiqué déjà en Hollande. En Hollande, déjà, ça. Les puces électroniques, c'est pas plus gros qu'un grain de riz, c'est même un peu plus petit. Après, on sait tout de vous, absolument, tous les renseignements. Et quant aux mesures sociales où on fait travailler gratuitement ceux qui sont au chômage ou les allocataires d'aide, eh bien, par exemple, Adolf Hitler avait fait ça avec un très grand succès. Alors, ce qui fait peur, vous avez raison d'avoir peur, c'est qu'aujourd'hui, messieurs, par exemple, Wauquiez ou Ciotti défendent les mêmes idées. Je veux dire, on se dit que ces idées traversent le temps et ce sont les pires qui aient jamais été en place dans notre société.
Alors, il faut expliquer que c'est en fait ce que le roman raconte, c'est un roman choral avec de nombreux personnages, mais qui raconte le jour où tout bascule. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un triumvirat qui dirige la France par-dessus le gouvernement, et ce triumvirat prépare un putsch, et en fait, il y a une manifestation qui est un guet-apens qui va permettre la suppression définitive de la démocratie. Alors, il y a un personnage un peu pour vous, Pio Marmaille, parce que c'est un personnage qui s'appelle Maxence, qui est une sorte d'anarchiste, mais vous êtes toujours anarchiste, ou c'est...
Mais je crois que c'est un mythe, hein, cette histoire d'anarchie, moi, j'ai pas le sentiment...
Moi, j'ai lu ça dans vos interviews.
Non, c'est parce que
quand vous venez de nous dire qu'il fallait que vous étiez pour le vol, attendez, excusez-moi.
Quand je dis voler tout, je pourrais être aussi capable de dire plutôt brûler tout. Moi, je suis plus pour le chaos que pour le vol en général.
Pour le chaos
en général. C'est pas d'anarchie, hein, ça n'a rien à voir. L'anarchie, c'est responsabiliser l'individu, le rendre assez autonome pour faire en sorte qu'il puisse fonctionner avec les autres sans chef finalement, c'est ça.
Il paraît que vous admirez Mélenchon, c'est toujours le cas.
Non, ou... alors ça,
vous l'avez dit, vous l'avez dit.
Je le dis maintenant, je n'ai aucune admiration pour Mélenchon. Fin de l'histoire, ça c'est sûr et certain. En revanche, si on peut revenir à cette histoire d'anarchie. Moi, quand j'étais à Saint-Étienne, j'étais très proche du mouvement punk parce que j'allais tout le temps au concert. J'allais au concert tous les dimanches.
C'est une partie de ma vie.
Après, j'ai créé un label avec d'autres individus qui me permettent, enfin, qui sont à la recherche permanente de nouveaux groupes qu'on peut produire en pressant des vinyles. Mais je pense que la dimension politique, Elle est secondaire pour moi, en tout cas dans le mouvement du punk hardcore musical. C'est plus une recherche musicale. C'est plus en tant que curieux et puis curien que j'ai découvert cette musique. C'est ça qui m'intéresse.
Quand je disais que dans le livre de Gérard Mordillat, c'est c'est le jour du jugement dernier quasiment, c'est que cette manifestation, donc est une manifestation un peu de gilet jaune, enfin on est un peu dans ce même type de mouvement, ça va virer à l'apocalypse parce qu'il va y avoir un enchaînement fou. Alors il va y avoir d'abord des provocateurs d'extrême droite qui vont tirer dans la foule. Ensuite il va y avoir des djihadistes qui vont s'infiltrer dans une contre-manifestation. Et puis alors, il va y avoir un événement quasiment métaphysique et mystique. Et là, je pensais même que votre livre allait se terminer par la fin du monde. C'est une pluie diluvienne et acide qui détruit tout.
Oui, c'est une chose que j'avais lue qui s'est passée, je ne sais plus où en France, il y a eu comme ça une pluie dont on n'a jamais su exactement ce qu'elle était ni quelle était sa nature, mais qui avait pour particularité d'être extrêmement corrosive. C'est-à-dire que ça ruinait évidemment tous les toits de voitures, et si les gens étaient touchés, ils étaient brûlés. Je me suis dit que c'était important qu'il y ait soudain dans cette manifestation un événement climatique, quelque chose qui va faire que les deux manifestations, la pour et la contre, se dispersent, que ça tourne à l'émeute, que ça tourne à la violence la plus déchaînée d'une certaine manière, que ce soit pas des choses purement, factuelles, humaines, liées à tel ou tel mouvement, mais que ça soit le grand imprévu. Ben, cette pluie, c'est le grand imprévu qui bouleverse tout.
Alors, Gérard Mordillat, dans ce livre, vous lancez presque un appel à une insurrection sociale. Et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes un peu déçu par les mouvements politiques. Je me souviens qu'en 2009, vous avez été candidat sur une liste du Front de Gauche. Aujourd'hui, vous agissez avec la plume ou à travers la caméra, c'est tout.
Je soutiens toutes les initiatives qui peuvent me paraître importantes, notamment sur l'idée de réunir tous ceux qui luttent comme moi contre le néolibéralisme. Et ma position, au fond, vous parliez pour Pio d'anarchisme, je souriais parce que, au fond, moi j'appartiens à une tradition, j'étais ouvrier imprimeur, où l'anarcho-syndicalisme était la règle commune. Il y avait cette idée-là. Au fond, je suis toujours de ce côté-là. Où je suis, pas déçu, mais plutôt attristé, c'est de voir qu'aujourd'hui, dans ce que je considère comme la gauche, la vraie, les questions de personnes et les problèmes d'appareil ont pris le dessus sur l'enjeu et les intérêts communs. Et c'est incompréhensible à mes yeux.
Alors, dans le livre de Gérard Mordillat, on pense beaucoup, je le disais, au mouvement des gilets jaunes. En un mot, Pio Marmaille, vous pourriez endosser un gilet jaune? Ou ça vous paraissait un peu inquiétant, ce mouvement?
Ah non, ah oulala, ça y est, on attaque directement le nerf
du truc. Tranquillité, écoutez, c'est le matin.
Moi je mets un gilet jaune quand j'ai un pneu crevé, je pense que c'est la seule.
Très subversif là.
Je suis dans une subversion permanente, et attendez la suite parce que ça va vous surprendre. Et là je sors mon cric et je change le pneu. Alors j'irai peut-être pas plus loin que ça, j'ai pas vraiment de regard. Oui, c'est un truc qui m'atteint, mais je peux pas faire, enfin c'est dans ma position là, je me sens pas concerné en tout cas par cette urgence, en tout cas parce que ma vie est un petit peu à côté, quoi. Donc
vous les avez observés en spectateur, en quelque sorte.
Pas tant, puisque j'habite à Aubervilliers, je suis quand même assez gazanier, et je n'ai pas, à Aubervilliers dans le 93, on n'a pas croisé beaucoup de gilets jaunes. Pas des
masses. Mais je vous conseille de voir le film de Gilles Perret et François Ruffin qui s'appelle On veut du soleil. Vous verrez ce qu'est la misère contemporaine, et là vous mettrez un gilet jaune.
Estivalitude sur France Inter. If you call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming.
I feel you, but it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect. sure don't have the time. Help me, stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? Help me, stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time?
Le nouveau projet du leader de White Stripes, Jack White, c'était The Raconteur, Help Me Strangers. Alors, c'est pour vous, Pio Marmaille, et en même temps, je m'excuse. Vu l'heure et le fait que nous sommes sur France Inter, je n'ai pas osé mettre du hardcore, du punk. J'avoue que j'ai eu une petite angoisse. Mais ce que j'aime en vous, quand même, c'est votre côté rock'n'roll, parce que vous l'aimez, le punk et le hardcore.
Oui, je l'aime. Oui, je l'aime et je peux en parler assez longtemps. Eh ben, enfin, je l'aime parce que j'ai une rythmique et en fait, il y a une sorte. J'ai découvert cette musique je vais expliquer rapidement aux gens qui écoutent. Ce sont des sets de on peut dire même de 25 morceaux qui durent à peu près 12 minutes. Un concert, ça dure 12 minutes. Ouais. Les gens jouent en général tous les morceaux d'affilée assez rapidement.
Ça, c'est les punks, ça.
Ça va très vite. On s'emmerde pas avec des balances rythmiques, enfin des balances de sons. On y va direct. On envoie la purée en plein dans la tronche et on se la prend.
Oh, ça fait
du
bien.
Ah, c'est une bonne purée dans la tronche, ça fait
bonne purée dans la tronche.
Ça fait toujours du bien. Et bien, figurez-vous que moi, j'ai découvert à Saint-Étienne et ça m'a bouleversé, quoi. Parce que j'ai vu des gens d'une générosité, en tout cas, dans la proposition musicale, dans le cri, dans quelque chose qui
dans la radicalité.
Puis qui m'a atteint, tout simplement. Moi, j'étais là.
Vomit for Breakfast, c'est pas terrible comme titre pour un groupe, hein.
Bah, écoutez,
surtout à cette heure-ci.
Il est 9h, là, effectivement. Il est peut-être un peu tôt pour. En même temps, c'est peut-être le meilleur moment de vomir ce petit déjeuner. Enfin, bon.
Peut-être.
Faites ce que vous voulez. En tout cas. Ça, c'est un groupe qui m'a marqué. Après, on a fait un spectacle ensemble.
Mais vous avez eu que vous les avez suivis en Europe de l'Est.
Ouais, on était en Europe de l'Est.
Mais vous étiez quoi, manager, groupie?
J'étais un peu tout en même temps. J'étais aussi pilote de voiture. Et on était en squat.
Vous étiez roadie.
J'étais un peu roadie.
Oui. Il y avait aussi les Satanic Crackheads.
Satan Crackheads. Mais ça, c'est un groupe qui existe encore, dans lequel je suis. Bon. Ouais. Mais c'est un groupe d'activistes, je dirais. D'intellectuels.
Mais vous jouez? Vous jouez d'un
instrument? Je joue de l'accordéon, mais alors rien à voir avec le hardcore.
Vous faites pas d'accordéon punk?
Non, par contre, je m'invente des un peu tout, n'importe quoi, mais oui, effectivement, c'est
vous
un groupe qui
existe. Vous êtes en train de me raconter d'un
peu. Non,
j'ai même
Satan Crackheads tatoué sur les bras. Ça veut dire à quel point je me suis engagé avec ce groupe. Oui, excusez-moi.
Non, mais je voudrais que vous m'expliquiez.
Qu'est-ce que
donc c'était Saint-Étienne, vous avez suivi jusqu'en Allemagne de l'Est.
En Allemagne de l'Est.
Et aujourd'hui encore, ça continue.
Oui, parce que j'ai un label qui s'appelle Kick Rock. Avec des gens qui font des disques, bien sûr. C'est un label qui presse des vinyles, pas énormément, c'est par 500.
Vous avez apporté votre dernier disque, on aurait pu.
Vous auriez dû m'en parler avant.
Ouais, c'est vrai, ça m'aurait vraiment passionné.
Après, il faut un tourne-disque, mais en tout cas,
il faut un tourne-disque. Ça complique les choses. Mais on devrait pouvoir en trouver un à la maison de la radio.
Ça devrait être faisable. Et surtout, c'est assez rare. Ce sont des gens qui ont une volonté. C'est absolument totalement autogéré. Il n'y a aucun bénéfice qui est généré par la vente de ces disques. C'est simplement des gens qui ont envie de travailler et de faire découvrir comme ça de la musique gratuitement pour les autres. En tout cas, moi, je trouve ça assez louable, assez rare.
Gérard Mordillat, votre roman est assez punk, hein, ces femmes-là.
Oui.
Vous écoutez quoi comme musique, vous?
Je n'écoute jamais de musique.
Jamais de musique.
Non.
Jamais, non.
J'aime beaucoup le chant. Alors,
le chant des oiseaux, vous voulez dire
ou non, mais j'aime le chant, que ce soit le chant classique ou la variété ou la chanson française, etc. Mais je n'écoute jamais de musique. Notamment, je peux pas, quand j'entends des auteurs qui disent qu'ils écrivent en écoutant de la musique. Vous savez, moi, je pense toujours à ce que disait De Gaulle qu'on avait emmené à l'opéra. Il avait dit à Malraux cette chose formidable. Il avait dit « Je vous remercie, André Malraux, de m'avoir emmené à l'opéra. Avant de venir, je pensais que la musique, c'était du bruit. Maintenant, grâce à vous, je sais que c'est prodigieusement emmerdant. »
Oui, il y avait une certaine franchise. Est-ce que vous savez, Gérard, que Pio Marmaille a créé une sorte de garage, je sais pas comment on appelle
c'est
ça.
Oui, c'est un garage.
Un atelier, oui. Un lieu qui s'appelle le garage de Monsieur Pickles,
oui.
À Aubervilliers. Vous y faites quoi, Pio Marmaille? Vous êtes garagiste?
Non, j'ai fabriqué des motos sur mesure pendant 10 ans avec des employés avec qui je travaillais, des amis. Et ensuite, c'est aussi un lieu où on faisait de la sérigraphie, ou qui avait une sorte de bar.
Ah
aussi.
Oui, donc c'est beaucoup plus qu'un.
C'est un atelier, oui, c'est un atelier.
C'est un lieu de vie, en fait.
De vie, tout à fait, ouais, qui, ouais.
Et vous avez dit, mon truc, c'est la soudure. Vous auriez pu être sidérurgiste, en fait. Vous avez raté peut-être une vocation.
Non, j'aurais pas pu être sidérurgiste. Je vais pas vous mentir, mais je faisais plus de la carrosserie. Moi, je faisais pas de préparation moteur. J'avais des mecs qui bossaient pour moi, qui faisaient des moteurs, particulièrement.
Il est fermé, le garage, là, aujourd'hui, ou
Il n'est que pour moi. Je travaille que sur les motos.
C'est un garage privé.
Je ne veux plus de clients, c'est fini. Alors là, les gens qui me donnent des ordres, ça, c'est get out. Voilà, c'est fini,
d'accord.
Ça.
Ouais. Et vous avez beaucoup de motos ?
J'ai quelques motos. J'en ai de moins en moins, parce que je préfère en avoir très peu. Mais en tout cas, c'est des motos que j'ai fait moi. J'ai eu un moment beaucoup de motos quand
vous
on est jeune.
Vous êtes un peu Harley, style Hells Angels, ou pas du tout ?
100% Harleyiste, ouais. Enfin, j'ai eu beaucoup d'Harley. Mais je roule un peu avec tout maintenant.
Vous m'impressionnez de plus en plus. Là, je suis en admiration totale. Moi qui n'arrivais à peine à tenir en équipe sur un vélo, si vous voulez, je trouve ça formidable. Pio, vous savez que Gérard Mordilla a tourné en 2003 un film social, moi je dirais quasiment punk, parce que entièrement en alexandrin. Alors écoutez un extrait que j'ai choisi du Grand Retournement.
Si l'immobilier monte, ils osent emprunter. Et ainsi davantage encore consommer. Tant pis si la maison se trouve hypothéquée, il suffira de vendre pour pouvoir rembourser.
Précisément, mon roi, que Messire permette, depuis les Amériques, les choses sont moins nettes. Incapables, bien sûr, d'une idée par eux-mêmes, ils ont crûment pillé votre génie suprême. Au simple plagiat, qui est déjà un crime, ils auront ajouté l'horreur du mot suprême.
Subprime.
Crétine, plaît-il ?
Alors extraordinaire, hein. Vous aviez un casting fabuleux, hein. Il y avait Jacques Weber, François Morel, Édouard Baer aussi, entre autres choses, avec une idée incroyable, quelle idée folle. Ça, c'est là vous parliez de surréalisme tout à l'heure avec le film de Ronan Lepage, avec Gérard Mordilla dans Le Grand Retournement, on est quand même dans un grand surréalisme social.
Bah, c'était au départ un texte de Frédéric Lordon, l'économiste et philosophe, qui a écrit sur la crise des subprimes.
Théoricien de Nuit Debout, un peu.
Oui, théoricien, et un type vraiment très perspicace. Et donc, la grande majorité des portes sont fermées, eh bien, il faut passer par les fenêtres. Alors lui, il a écrit ça sous forme théâtrale, ça a été joué au théâtre. Moi, j'en ai fait un film, et ça passe aussi par un autre endroit, avec, c'est vrai, des acteurs absolument formidables, parce que, comme tout était en alexandrin, il fallait des acteurs qui aient la pratique de l'alexandrin. Parce que l'alexandrin, c'est
Ariane, ma sœur, de quel amour blessé, vous mourûtes au bord où vous fûtes laissé. J'en sais pas plus, hein.
C'est déjà un bon début.
Bah, c'est le début. C'est le début d'une carrière. Gérard Mordilla, je crois que vous avez une question pour Pio Marmaille. Est-ce que vous vous en souvenez de la question?
Oui, je n'ai pas totalement perdu la mémoire.
Tant mieux.
Dans l'histoire du cinéma, quel personnage auriez-vous aimé interpréter?
Le Joker.
Dans Batman?
Oui.
Ah ouais, je
pense.
Avec
parce
vous.
Que j'ai toujours été fasciné.
Et Double
par
Face,
les...
c'est pas mal non plus.
Oui, alors peut-être plus tard. Mais en tout cas, je vous choisis le Joker parce que c'est pour moi la figure ultime du méchant qui ne tire son plaisir que par la destruction et le chaos d'une société. Il y a aucun intérêt financier ou humain. C'est simplement la pure destruction. Moi, c'est un personnage qui m'a toujours fasciné. Enfin, alors je sais pas si j'oserais faire un truc comme ça, mais enfin, si on me le propose, mais ça, je pense pas. Mais c'est un personnage qui m'a toujours, même enfant, j'ai toujours préféré le Joker à Batman.
Vous préfériez le méchant dans la bande dessinée?
Ah, j'ai toujours préféré les méchants, ouais. Toujours.
Qui sont beaucoup plus drôles en général.
Oui, et puis qui sont diaboliques.
Évidemment, ouais. Bien sûr. Pio, alors, je vous ai demandé quelles questions vous aviez à poser à Gérard Mordilla et vous avez dit j'improviserai. Vous avez répondu à notre attaché de production Saad Merzak que vous alliez improviser.
Alors, j'avais différentes questions. Alors, je me disais, bon, alors, est-ce qu'il faut que je parle de Lafayette, tout ça, parce que bon, je me dis que c'est quand même qui me fascine, je sens que ça
Lafayette.
Lafayette, je vais pas développer. Et du coup, la question que vous venez de me poser, je la trouve assez intéressante. Et j'aimerais vous poser la même. Si vous aviez dû, vous, interpréter un personnage dans toute l'histoire du cinéma, ça aurait été lequel?
Moi, je pense que j'aurais fait un personnage dans le Jeanne d'Arc de Dreyer, parce que c'est pour moi le plus beau film jamais réalisé, uniquement sur des visages. Or, je crois qu'il n'y a rien de plus intéressant pour un cinéaste que de filmer le visage d'un acteur.
J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Sur leur peau, le soleil caresse bien trop sage. Le vent qui les décoiffe, un goût de sel sur mes lèvres.
ça c'est un peu le disque qu'on aime sans oser l'avouer publiquement. Schwartz, c'est un petit peu honteux, mais quand même on aime ça. J'aime regarder les filles. Le tube éternel de Patrick Coutin qui date de 1981. Une programmation estivale au chaloupé de Muriel Pérez.
Christophe Bourseiller, Estivalitude sur France Inter.
Gérard Mordillat, les personnages principaux de votre livre, ce sont les femmes, parce que ce sont elles qui, en fin de partie, vont faire la révolution.
Oui, mais parce que le livre est structuré classiquement en trois parties, avant la manifestation, pendant la manifestation et après. Et dans après, comme les hommes sont soit recherchés par la police, soit dispersés, soit incapables d'agir, il ne reste plus que les femmes. Et toute la dernière partie n'est faite qu'avec les personnages féminins, qui d'ailleurs s'unissent entre elles, non pas sur des bases politiques, mais essentiellement sur le fait qu'elles sont des femmes. Et que, au bout du compte, les plus courageuses, les plus déterminées, les plus combattantes, ce sont elles. Capable d'agir alors que tout semble perdu, tout semble fini.
Capable d'agir au point de s'en prendre à la virilité d'un homme à un moment donné, hein, s'en prendre un petit peu directement, on va dire.
Oui,
hein. Je veux pas dévoiler, mais enfin, c'est un peu violent. C'est tranchant comme argument.
Voilà, exactement.
Hein, ça peut arriver, les arguments tranchants. Pio Marma, j'ai lu plusieurs choses que vous avez dites. Vous avez dit que les gens me voient souvent comme le roi de la fête, le mec qui répare des motos, comme quelqu'un de beaucoup plus hystérique que je ne le suis. Mmh. Et vous dites aussi, je suis snob, excessif et destructeur. Vous êtes tout ça à la fois ?
Ah, alors là, je sais pas où vous avez trouvé ça.
Ah bah, j'ai fait le tour de toutes les coupures de presse possibles et imaginables.
Oui, j'ai dû dire un truc comme ça. Non, je pense que, en fait, ce qui est délicat, c'est que quand on a différentes activités comme les miennes, enfin, en tout cas, à un certain moment de ma vie, j'étais vraiment, dès que je voyais un truc, je m'engageais dans des activités, que ce soit la moto, la sérigraphie, les associations, le travail avec les enfants. J'ai fait 50 000 trucs en même temps. Et peut-être qu'à un moment, je me suis un peu perdu, dans ma position d'acteur, au final, où j'avais besoin de me rattacher à un truc très manuel, très concret. Et qui me renvoyait à une autre position que je peux avoir quand je suis sur un plateau où tout est très finalement assez abstrait, puisque mon corps c'est mon outil de travail et au final il reste juste un objet filmé. Et peut-être que j'avais besoin d'avoir plus d'ancrage comme ça dans le réel, donc ça passait par autre chose. Mais aujourd'hui j'ai l'impression que je me sens plus à ma place comme acteur. Voilà, je pense que c'est aussi.
Alors,
ça.
Je vous ai demandé, comme à Gérard Mordillat, bien sûr, quel était le son qui pouvait vous résumer. Et là, vous nous avez fait, alors avec Juliette Médevielle, on a discuté, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous vouliez le générique de Secret d'Histoire avec à la fin un orage qui éclate. Alors on a fait à Juliette, je
alors,
crois que je
allez-y,
ne mens pas.
Je suis prêt, je vous dirai si ça correspond exactement à ce à quoi je pensais.
Alors on y va. Voilà. Alors en fait, je m'étais trompé. Vous vouliez. On a fait un montage savant. Hein, vous vouliez donc le générique de Secret d'Histoire
et
suivi
explosion.
D'un feu d'artifice. Pourquoi ?
Alors, il se trouve qu'à mon avis, pendant qu'on m'a posé la question chez moi, je devais être en train de regarder mon petit pote Stéphane Bern dans le téléviseur, car je suis absolument fanatique de cette émission de télévision.
Ah d'accord.
Alors vous allez me dire, est-ce que ça me ressemble ? Non, pas particulièrement. Bah, mais
vous êtes
en
surprenant
tout cas,
en même temps.
Il fallait que ça se fisse avec une explosion parce que si je n'avais pas été acteur, j'aurais été artificier. Donc je ne peux pas. Oui, ça je balance ça tout de suite. C'est un truc qui m'a toujours fasciné.
C'est la phrase qui va rester. Si je n'avais pas été acteur, j'aurais été artificier.
J'ai toujours été fasciné par les explosions et par les feux d'artifice. Enfin plus par les explosions, par le bruit et par tout ce qui me pète à la tronche. Et alors je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je pensais au début, je voulais juste penser à un truc de feu d'artifice. Je me suis dit non, quand même, je ferai un hommage à Stéphane Bern parce que la première fois que je l'ai vu, il me parlait de la fistule de Louis XVI et j'ai trouvé ça absolument truculent.
C'est un beau thème.
Donc fistule et explosion. Moi, c'est un truc qui me correspond plutôt pas mal.
Et ben voilà, il faudra dire à Stéphane Bern qu'il a un fan en la personne de Pio Marmaille. Oui. Alors vous, Gérard Mordillat, le son qui vous résume, c'est beaucoup plus sérieux. C'est même un son assez dramatique. Oui. On va l'écouter. Vous nous direz après ce que c'est.
Сильных трудоголовок. Я не волю ренунциать. Колокал в транзит историку, пагаре con mi vida la lealtad del pueblo.
Alors ce son-là, très particulier, qu'est-ce que c'est, Gérard Mordillard ?
C'est la dernière intervention du président Salvador Allende quand le palais de la Moneda a été attaqué
Chili, le 11 septembre 1973.
Voilà, qui est une date fondamentale.
Pourquoi ? Pourquoi vous dites le son qui me résume, c'est ça ?
Mais parce que je crois que pour ma génération, le coup d'État au Chili, la mort d'Allende, ça a été un événement plus important que mai 68. Parce qu'il y avait là quelqu'un qui, d'une certaine manière, mettait en place tout ce à quoi on aspirait. C'est-à-dire un gouvernement socialiste, communiste, qui avait pris des mesures extrêmement importantes, comme la nationalisation du cuivre, alors que les Américains voulaient tout voler, la gratuité absolue de l'enseignement, la redistribution des terres au profit des paysans les plus pauvres, etc. Un homme qui avait été élu démocratiquement, ce qui était insupportable pour les Américains. Et quand on pense que Kissinger a eu le prix Nobel de la paix, on a les cheveux dressés sur la tête, c'est un assassin, et Nixon était aussi un assassin. Et ils l'ont fait, et ils ont amené ce fantoche assassin lui-même qui était Pinochet, mais c'est pas le plus grave. Enfin, c'est très grave, mais surtout le lendemain, à peine le coup d'État réussi, sont arrivés ce qu'on appelle les Chicago Boys, c'est-à-dire des économistes formés par Milton Friedman, qui ont balayé tout ce qu'avait fait Allende pour tout rendre au privé, ce qui a été une catastrophe absolue sur le plan économique pour le Chili. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, parce que le néolibéralisme, il est né à cette date-là. Donc je pense que pour moi, c'est une date essentielle.
Donc pour vous, c'est absolument essentiel. Gérard Mordillard, si je devais vous demander votre film culte, ça serait quoi le film que vous emmèneriez partout avec vous ?
J'hésiterais entre deux choses. D'un côté, Mon oncle de Jacques Tati.
Ah ouais ?
Que je trouve extraordinaire à tout point de vue, que j'ai vu une cinquantaine de fois. Et puis, de l'autre côté, My Darling Clementine de Ford, qui est une sorte de perfection de mise en scène. Et surtout, ça a été tourné en 21 jours. Et ça, c'est le grand art. De faire le geste, et c'est parfait. D'ailleurs, comme l'avait dit Richard Widmark, qui tournait pas dans ce film-là, mais qui a tourné avec Ford, il disait Ford était formidable, il ne faisait qu'une prise et ne disait jamais rien aux acteurs.
Pio Marmaille, vous avez dit, alors là j'ai encore quelques citations, vous allez me dire c'est diffamatoire, vous avez dit Kubrick c'est quand même pas mal, et plus loin, j'aimerais bien faire un film avec des mitrailleuses et des aliens, ou un film de fin du monde. Alors c'est quoi le film, votre film culte pour vous ?
Pink Flamingo, John Waters.
Ah ouais, John Waters, Pink Flamingo.
Ah ouais, Divine. Tout de suite. Divine. Mais vous savez que je voulais me faire tatouer le visage de Divine sur mon bras. Parce que mon père m'a dit quand j'étais enfant, il m'a dit, il y a deux films qu'il faut absolument que tu vois avant de mourir. C'est Salo et Pink Flamingo. C'est vraiment deux. Et quand je les ai vus, j'ai parfaitement saisi pourquoi. Enfin, en tout cas, je me suis inventé une raison. Ce sont des films qui m'ont bouleversé, oui, je pense comme l'hardcore d'ailleurs, j'ai le même rapport à ces films que j'ai avec des musiques, avec des groupes de punk. Parce que ça m'a bouleversé, ça m'a chamboulé à un endroit, ça m'a questionné sur la politique, je pense, contemporaine, mais aussi sur le cinéma en soi. Mais la sauvagerie et la liberté un peu.
Ah oui, la sauvagerie, totale. C'est ça que vous aimez en fait, hein, ça expose un peu. Gérard Mordillard, il a consacré plusieurs travaux à Jésus, à Mahomet. Vous croyez en Dieu, vous ?
Moi, je crois en Divine. Je pense que c'est déjà pas mal, non ? Alors, est-ce que je crois en Dieu ? Non, je ne sais pas. Mais non, j'en ai. Là, je pense que je suis. Non, je suis pas dans cet endroit-là, moi. Non, pas trop.
Rassurez-vous, moi non plus.
D'accord.
Ah bon ? J'allais vous demander, et Dieu dans tout ça, vous comprenez, c'était pour terminer.
Vous connaissez, l'homme sera vraiment libre quand le dernier aristocrate sera pendu avec les tripes du dernier curé.
Et ça, c'est de l'abbé Mélier.
Bonne journée.
Tu veux que je te raconte un souvenir ?
Un souvenir, ah oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Pio Marmaille, vos parents vous disaient « Sois créatif et insoumis ». C'est joli comme injonction parentale. Hein. Alors Pio, je vous ai demandé votre plus incroyable souvenir de vacances. Ce que c'était, c'est ce moment-là dans l'émission. Vous savez, l'émission maintenant va toucher à sa fin. C'est l'été, ça s'appelle Estivalitude, je vous le rappelle. Et alors, votre plus incroyable souvenir de vacances, franchement, ce que j'ai trouvé ça assez intéressant, ça se passe au Danemark.
Oui, je suis parti en road trip avec des potes en chopper, donc c'est-à-dire des motos. sans frein avant, avec des fourches de 2,50 m de long, uniquement la fourche, hein. Le véhicule doit faire 4,50 m.
Ouais.
Et je vous raconte pas les conditions de ride, hein. C'était assez sauvage, c'est-à-dire pas d'habit, rien. C'était vraiment très sauvage.
Comment ça, pas de quoi? Je comprends pas.
Ben, on avait juste un petit sac à dos, et on est parti au Danemark en moto, et à un moment, on est parti.
Mais vous avez fait France-Danemark à moto?
Ouais, à moto, aller-retour, ouais. D'accord, et comme j'avais pas de suspension, je dois vous dire qu'à un moment, il y a une partie de mon corps sur le retour, qui se trouve dans mon entrejambe, qui a été particulièrement de plus en plus douloureuse.
Ah ouais.
Et j'ai dû.
J'ignorais que la moto faisait mal à l'entrejambe.
Il faut imaginer une moto qui n'a pas de suspension. Hein. C'est quelque chose de très sauvage.
Là, c'est beau, c'est beau, vous deviez être très beau.
Ah, c'était beau, oui. On avait de la lumière.
Vous étiez nombreux?
On était, je dirais, 6-7. Mais on a eu l'intelligence de partir avec un ami qui avait une micro-camionnette. C'est une camionnette. Je vous avoue que les 200 derniers kilomètres, sur 3000 quand même, hein, ce qui est quand même beaucoup, j'ai mis la moto dans la camionnette parce que j'avais vraiment. Extrêmement mal.
Mais dans les pays du Nord, il y a beaucoup de motards comme ça. Il y a des groupes, il y a les Bandidos, les Hells Angels.
Les Bandidos et les Hells Angels sont dans tous les pays.
Ils sont dans tous les pays.
Dans tous les pays,
ils sont notamment au Danemark.
Oh, ils sont très actifs, oui.
Ils sont très actifs. Ouais. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, c'est palpitant. Alors, vous, Gérard, vos vacances de rêve, c'est beaucoup plus tranquille. Alors, racontez-nous.
Bah, d'abord, regardez-moi. Vous avez devant vous une espèce en voie de disparition.
C'est-à-dire? Parce que. Un mâle blanc de plus de 50 ans?
Un Parisien pur jus. Mon père, mon grand-père, l'arrière-grand-père, etc., tous entre Belleville et Ménilmontant. Eh bien, tout Parisien que je suis, quand j'étais enfant, j'allais en vacances dans les Landes, près de Mont-de-Marsan, à Bordères-sur-Adour. À ce moment-là, les vacances, c'était de juillet à octobre. Et donc, j'étais dans une ferme, et j'ai participé là, d'abord enfant, puis en grandissant, à tous les travaux de la ferme. Et donc, j'ai un souvenir ébloui de ça, puisqu'à ce moment-là, c'était pas la monoculture, mais au contraire, la polyculture, puisqu'il y avait à la fois du blé, malheureusement déjà du maïs, mais aussi des animaux, etc., etc.
Et à l'époque, il y avait des animaux dans la campagne, c'est ça,
oui,
que vous voulez dire?
Oui, exactement.
D'accord.
Et puis, c'est quelque chose qui fait toujours pour moi un sujet d'interrogation. Qu'est-ce qui a fait que je ne sois pas devenu paysan? J'aurais pu.
Ah, écoute, c'est une très belle conclusion à l'émission. Gérard Mandia, vous auriez pu être paysan. Alors vous auriez pu être artificier.
Oui.
Voilà, c'est comme ça. La vie, c'est le destin. C'est notre vie à tous. Merci infiniment Pio Marmaille et Gérard Mordilla, vous avez tous deux fait preuve d'une remarquable estivalitude. Ah oui, c'est important quand même. Alors Gérard Mordilla, je rappelle que votre roman « Ces femmes-là » est paru chez Albin Michel et Pio Marmaille, le film « Je promets d'être sage » de Ronan Lepage sort aujourd'hui même, on est dans les temps, dans les salles, enfin ça sortira évidemment cet après-midi. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission, ça va de soi, sur le site de France Inter. Vous pouvez aussi vous promener sur les réseaux sociaux parce que nous sommes très actifs sur Facebook, Twitter et j'en passe. Estivalitude est heureusement réalisée tout l'été par Juliette Medeviel. L'émission a été préparée par Saad Merzak, Corinne Valente, Pierre Goulencourt et Astrid Landon. Et je n'oublie pas à la technique, Élise Christophe. Notre boutique éphémère réouvre bien sûr demain matin dès 9h sur France Inter. Messieurs, dames, à demain.